L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Jumier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. se lève et va vers le mur. Il soulève un tableau. Derrière, il y a un coffre-fort. Il l'ouvre. Dépose le mouchoir et referme le coffre-fort. Remet le tableau en place. Puis retourne s'asseoir. Il dit, ceci va beaucoup nous aider pour les recherches et l'éliminer. Nous sommes suffisamment riches pour cela. Oui. Suffisamment riches pour cela. Grégory lui demande, mais les autres ? L'homme lui dit, les autres, des riens, ils n'ont rien. Ils n'auront rien. Nous pouvons partir et faire nos recherches dès le début. Aller en Italie et voir. On la frappe à la porte. Entrez. Entre domestique. Avec le petit déjeuner. Il le dépose sur le bureau et fait le service. Monsieur, vous désirez café, thé ? Café, avec un doigt de lait. Merci. Le domestique le sert. Puis, sert son maître, moi comme d'habitude, le café pur. Voilà, monsieur. Et le domestique s'éloigne. Ils boivent en silence. Grégory demande, et si ce n'est pas ce que l'on croit et qu'il ça pourrait nous arranger s'il était à la tête du pouvoir pendant un certain temps? L'homme lui demande, quoi? Eh bien, il peut, en étant au pouvoir, semer, disons, une certaine anarchie. L'homme lui dit, est-ce que le mal, vous voulez dire, oui, cela peut arriver? L'homme lui dit, il vaut mieux s'éliminer maintenant, même s'il est le mal, ou nous créerons le mal. Grégory lui dit, mais s'il est au pouvoir, ce sera grâce aux autres et son... Oui, si... Ce sera les autres qui seront coupables, qui l'ont mis au pouvoir en être nuisible.
Non. Moi, Yves Saumur, je veux pas prendre des risques. Dès qu'on l'a, on l'élimine, tel qu'il soit, quel qu'il soit. Notre devoir est de nuire à ceux qui ont fait du mal.
à Paris, dans une pièce sombre, sont assis autour d'un bureau trois hommes. L'homme qui est assis à son bureau est grand, mince. L'un des hommes qui lui fait face est grand, blond, cheveux courts, tête osseuse, qui en impose. C'est Marshall. Son voisin, c'est Louis Morel, 50 ans, grand, gros, cheveux gris, l'air jovial, lunettes métal. Celui qui est à son bureau s'appelle Philippe Meubrise. Philippe Meubrise est grand, mince, cheveux châtains qui ont été blonds, visage dur, il a 50 ans. Philippe Meubrise leur dit: il faut agir de suite avant que les autres apprennent ce qui se prépare. Maréchal Georges demande: ils le savent peut-être, ils sont déjà sur les lieux. Philippe lui dit: ils sont sur les lieux, mais sans le savoir, c'est le hasard. Georges lui dit: peut-être bien, mais ça peut être dangereux pour nous. Philippe lui demande: si vous voulez, je peux donner le travail à un autre. Non, merci, je disais simplement que cela pouvait être dangereux. Louis Morel demande: sont sur de trouver quelque chose. Philippe lui dit: oui, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Et nous, sommes-nous sûrs de trouver quelque chose? Peut-être. Après tant d'années, il a dû y avoir des pillages ou autres. Philippe lui dit: non, il n'y a rien eu de particulier. La chose est restée en état. Mais il faut agir vite. Nos ennemis sont sur les lieux et peut-être faire ce qu'ils veulent. Agissez demain et ramenez-moi quelque chose. Je lui dis: bien, maître. Le lendemain après-midi, une voiture s'est arrêtée pas bien loin de l'église Saint-Denis. Deux hommes en sortent. Ils sont en costume noir, ont chacun un cartable noir à la main. Leur col de chemise les fait ressembler à des prêtres. C'est Georges et lui. L'église a un échafaudage sur le devant, avec des ouvriers qui y travaillent. Ils entrent dans l'église. On entend le bruit des ouvriers, la poussière. Sans être vu, ils vont chacun se cacher dans un confessionnal. Ils sont venus tôt, parce que lorsque les ouvriers quittent le chantier, ils ferment l'église à clé. Ils attendent qu'ils s'en aillent. Normalement, ils doivent s'en aller dans une heure. Le temps est long, long. La poussière donne envie de tousser. Thank you. Le bruit diminue. Georges se dit qu'ils vont bientôt s'en aller. Plus de bruit, de coups. L'on range les outils. Lui et Georges sont chacun dans un confessionnal et attendent que les ouvriers s'en aillent. Puis des pas. Des portes que l'on ouvre et que l'on ferme. Puis le silence. Ils attendent un peu avant de sortir de leur confessionnal. Georges sort sans faire de bruit. Va vers le confessionnal où se trouve lui. Lui dit tout doucement. Tu peux sortir, ils sont partis. Lui sort du confessionnal et demande. Tu sais où ça se trouve? Oui, en bas, dans la crypte. Viens. Et lui suit Georges. Georges va vers le corps. Il y a des escaliers qui descendent. Ils le prennent. Des escaliers assez larges et en marbre. Et en bas des escaliers, il y a une porte grillagée. Georges ouvre son trousseau. Et sa trousse à boîte à outils. Il prend un petit appareil avec un écran où il y a une boule, au bout une tige métal. Il met la tige de métal dans la serrure. Elle tourne dans la serrure et indique sur l'écran les chiffres références. Une fois que ce fini ordinateur a fini de chercher la tige de clé qu'il faut et ses fentes, etc., Georges sort la tige de la serrure, voit la référence qu'il faut, il prend dans son trousseau une clé référencée. Ajoute sur la tige un rayon de fente et de trou, puis met la clé dans la serrure. Et la porte s'ouvre. Ils descendent. Appuie sur l'interrupteur. Et continue à descendre. Lui dit. C'est beau le progrès. Arrivé en bas, il y a des rangées de tombes, très belles, avec dessus des statues des rois de France allongées. Georges regarde bien et dit, je dois être dans cette travée-là. Ils y vont.
il ne reste plus qu'à soulever la pierre. Voilà, c'est là. Il pose ses outils à terre, prend un marteau et un burin. Tape autour de la tombe pour la soulever. Il prend une barre de fer pour soulever, déplacer la pierre après de nombreux efforts. Ils y arrivent. Voilà, l'intérieur en sarcole en mauvais état, à moitié pourri, à l'intérieur du petit ossement. Georges prend un sac plastique comme le cercueil est pourri, avec sa barre, il réussit à faire un trou pour prendre des petits ossements qu'il met dans sa plastique. Et le met dans sa poche revolver. Puis il remet sa pierre en place. Et remonte les escaliers. Juste, ils vont finir de remonter, ils entendent le bruit. Une porte qui a claqué. Ils ne bougent pas, intrigués, des pas. Malheureusement, lui fait tomber à terre quelque chose. Un outil. Il y a quelqu'un. Les deux complices ne bougent pas. Des pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Georges, d'un bond, fonce sur l'homme. Il le fait tomber à terre. Il lui tient bien les bras. Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez! L'homme ne peut pas bouger. Alors Georges l'étrangle. Puis, ils sortent de l'église. Mais par derrière, pour ne pas être vu. Ils courent à leur voiture. Ils sont entrés dedans et Georges met la voiture en route et dit: on ne pouvait pas faire autrement. Et la voiture file dans la nuit. Ils ont l'air d'Hélène qui se recherchait. Lendemain matin, un prêtre trouve le cadavre dans l'église, à côté des escaliers qui mènent à la trite. Et il va prévenir la police. La police arrive. Le commissaire, un homme grand, maigre, manteau marine, examine le corps,
avec le médecin légiste. Le légiste, médecin légiste dit, il a été étranglé. Le commissaire demande, pourquoi ? Qui était cet homme ? Le prêtre, un petit gros cheveux gris, lui dit, c'était un des ouvriers qui travaillait à la rénovation. Le commissaire lui demande, et pourquoi a-t-il été tué ? Le prêtre lui dit, on ne sait pas, peut-être a-t-il vu un voleur. Le commissaire interroge les compagnons du Tour de France. On lui dit que lorsqu'ils sont partis, tout était normal. Et pourquoi est-il revenu ? Mais il est parti avec nous, a dû certainement oublier quelque chose. Et il a été pris par un voleur. C'est assez fréquent, vous savez, dans les églises. Lorsque Yves apprend ça, il dit « Ils ont dû venir prendre l'ADN. Maintenant, c'est la guerre. » La police continue son enquête. Chez les voisins, le quartier, rien. On n'a même pas volé dans l'église. Elle ferme le dossier pour le moment. Jean-François est toujours dans son quartier, rue Saint-Jacques. Il fait les marchés, aide à décharger les cargos, les cajots. En échange, on lui donne un fruit, un gâteau ou même un café. Les gens qui font le marché ont le regard morose. Ils sont pour la plupart des vieux, achètent peu parce que tout est trop cher. Les gens qui passent voient Jean-François, ils le regardent d'un drôle d'air. Il se dit, vous ne m'aimez pas, mais moi je vous aime. Je ferai tout pour que vous soyez heureux. Après le marché, Jean-François traîne dans la rue. Un enfant d'un 10 ans, maigre, les cheveux longs, en broussaille blond, le visage maigre, habillé en guenilles. L'enfant lui demande « Tu veux me donner un fruit ?» Jean-François le lui donne. C'est une pomme. Merci. François lui dit. Tu es plus fort, toi, que moi. L'enfant sourit et lui fait un clin d'œil et lui dit. Je suis comme toi. Moi aussi, je passe. Jean-François lui dit. Oui, tu es comme moi. Les autres sont sourds, aveugles. Ils ne voient pas. Ils ne vont pas où il faudrait aller. Et ils vont carrément dans le mur. L'enfant rit et s'éloigne. Un chien vient se plaquer à ses jambes et lui sourit. Jean-François continue sa marche. Il rencontre un chanteur des rues. Jean-François Après avoir chanté, il fait la quête. Mais la plupart des gens s'éloignent, dit Jean-François. Ils sont tous des radins. Jean-François lui dit,
eux aussi, un jour, ils auront besoin des autres. Tu verras plus tard.
Il continue sa route. Un vieux clodo, petit, maigre, cheveux et barbe en broussailles blanches, le visage tout ridé, un grand nez mince, habillé d'une vieille gabardine qui a été beige, elle est toute tachée et trop grande pour lui, dit à Jean-François.
Qu'est-ce que tu as à tourner, toi, comme ça, dans le quartier? Depuis que tu es là, il n'y a que du malheur.
Vous avez l'air, s'il vous plaît. 10h20.
Ne serais-tu pas le tueur de femmes?
Jean-François lui dit, fous-moi la paix. C'est pas moi, ça. Les gens sont comme ça. Quant à ces femmes, elles sont peut-être plus heureuses.
L'autre lui dit, salaud.
Jean-François ou ses épaules s'éloignent en se disant, ils ne comprendront jamais rien. Amance a entendu la scène. Elle va vers Jean-François et lui dit, tu te fais encore un ennemi?
Tu es là, toi?
Oui, j'ai fini mon travail plus tôt. Il ne faut pas s'occuper d'eux. Ils ne comprennent pas.
Et toi, tu comprends?
Elle lui dit, oui, tes yeux,
qu'est-ce qu'ils ont?
Ils sont purs, d'une pureté qui ne s'achète pas.
Tu es aussi bête qu'eux.
Elle lui dit, idiot, je te fais un compliment? Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.